Grâce en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Science en liberté. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. De quoi le sexe est-il le nom ? Le sexe apparaît comme une procédure commune chez une très grande quantité d'espèces. Ce qui est incroyable en amour, c'est que nous vivons une aventure absolument singulière et intime, un événement individuel et exclusif qui nous concerne au plus profond de nos secrets. Et cependant, loin d'être banal, cette aventure éperdue nous submerge et nous entraîne, et cela sans jamais vraiment savoir ce que l'on y fait. Car il faut le répéter, le sexe reste la plus grande énigme biologique de tous les temps. Le sexe figure en bonne place parmi les problèmes évolutifs non résolus de manière satisfaisante par le processus darwinien dit de sélection naturelle. Car il oblige à des manœuvres délicates, il ne permet d'échanger que la moitié de nos gènes, et encore faut-il que la séduction opère et que les manœuvres arrivent à leur terme. Si on ajoute l'incroyable dispersion d'énergie, on conçoit que cette procédure organique semble bien dispensieuse, voire inutile. Si la sélection naturelle favorise celui qui transmet le plus de bons gènes à la génération suivante, comment un processus aussi complexe et onéreux que le sexe a-t-il pu émerger au cours de l'évolution ? Le sexe est donc coûteux et manifestement contre-sélectif. D'ailleurs, le sexe est certainement la plus mauvaise façon de laisser une descendance. Sa place dans l'évolution reste un mystère et son mécanisme accumule les paradoxes. Car le sexe connaît aussi le conflit entre les mâles et les femelles, cette étrange bataille qui conduit les dauphins à harceler les femelles et la mante religieuse à décapiter le mâle. C'est dire si les relations amoureuses semblent ambivalentes et toujours très ambiguës. Et pourtant, l'enchantement amoureux entraîne tout autant le grillon que l'éléphant, le gorille que la sardine. Car les espèces existent de se séduire et depuis la nuit des temps, les espèces divergent de ne plus s'aimer. Voilà qui sépare définitivement le chimpanzé du bonobo et l'abeille domestique de la guêpe germanique. Et si l'alouette chante, c'est bien entendu que monsieur souhaite passer à des choses délicates en interpellant madame. Quant aux amours homosexuels, l'évolution n'y retrouverait pas ses petits, nous dit-on. Bref, il est temps d'aller voir cette curiosité biologique d'un peu plus près, et comme nous sommes sur Radio Libertaire, nous n'allons rien nous interdire pour comprendre d'où vient le sexe et ce que nous y faisons. Là encore, la biologie paraît en crise, car l'amour va lui voler la vedette. Thank you.
Vous écoutiez sur Radio Libertaire Biréli Lagrège qui interprétait Swing 42. Alors Thierry, la biodiversité se construit par l'amour.
Eh oui, bonjour Siona, la biodiversité se construit en effet à travers le sexe et l'amour et nous allons essayer de décliner cette question en plusieurs chapitres pour essayer de finir par comprendre ce que c'est que la séduction et finalement de quoi le sexe est-il le nom.
La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces présentes sur la planète.
La nature est incroyablement variée, et même dans les milieux les plus reculés, les tropiques, les océans, les milieux les plus secs, les milieux les plus inhospitaliers, par exemple la maison, eh bien, des êtres vivants y habitent. Et la question essentielle de la biologie, c'est en fait d'où provient une telle biodiversité.
En fait, c'est l'ensemble donc des espèces présentes sur la planète, c'est donc dire qu'elle vient de l'évolution biologique.
Tout à fait, la biodiversité résulte d'une transformation des espèces avec le temps, c'est l'évolution biologique. Et ça, c'est un Français, Jean-Baptiste Lamarck, qui le premier a identifié cette réponse à la biologie. La biodiversité provient de la lente diversification des espèces, c'est ce qu'on appelle l'évolution biologique qui transforme les espèces. Ensuite, on a fait intervenir Darwin, qui a suspecté que cette transformation allait dépendre de ce que certains caractères étaient avantageux. Et comme certains caractères vont avantager certains individus, il a appelé ça la sélection naturelle en 1859, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après la découverte de Lamarck.
En fait, la biodiversité résulte de la concurrence entre les plus adaptés et les moins adaptés.
C'est un peu ça, c'est cette concurrence qui va conduire les individus à laisser ou non leurs gènes. Mais évidemment, pour ça, il va falloir introduire la génétique dans l'évolution.
D'où l'élaboration d'une nouvelle théorie de l'évolution dans les années 40-60.
Voilà, c'est ce qu'on appelait la théorie synthétique de l'évolution, qu'on peut aussi appeler le nouveau néo-darwinisme. C'est le néo-darwinisme en fait, qui date des années 40, dans lequel on a tout simplement, on peut résumer, hein, tout simplement, on associe la sélection naturelle, c'est-à-dire la transformation naturelle des espèces avec selon la thématique darwinienne, avec la thématique génétique qui a été découverte dans les années 20 et qui commençait à prendre vraiment son ampleur à la fin des années 30-40. Et donc en associant la génétique et la transformation naturelle, l'évolution va résulter de la diffusion des gènes. Donc finalement, la question qui va être importante, ça veut dire de dire que plus on se reproduit, plus on évolue, plus on laisse des gènes, et donc plus notre espèce évolue. La reproduction, c'est donc la même chose que l'évolution. Pendant longtemps, se reproduire, c'était juste se diviser, ce qui est pas très difficile. La plupart des bactéries sont capables de ces divisions, et ça a été longtemps le cas sur la planète Terre, il y a environ 3 milliards d'années à peu près. Mais peu de variations interviennent lorsqu'on se divise. Il y a juste des éléments qui occasionnent des erreurs dans la transcription génétique.
L'évolution dépend donc de la diffusion des gènes, mais les individus là-dedans.
Alors c'est là où effectivement les choses vont changer, c'est que les individus vont bientôt faire leur choix amoureux.
Qu'est-ce qui désigne à l'origine le mot sexe ?
Alors, le terme sexe signifie séparer, sectionner en deux. Le mot sexe possède une étymologie simple, les espèces sont tout simplement séparées en deux. Mais ça suit une mythologie archaïque qui remonte au début de l'humanité et qu'on voit apparaître chez les Grecs et les Égyptiens.
Dans l'évolution, cela signifie finalement que les espèces sont issues d'une histoire où la séparation est la règle ?
Tout à fait. La séparation, le sexe, est la règle en fait de la partie de l'histoire qui va conduire à l'évolution. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les espèces se reproduisent d'abord sans le sexe, comme des êtres entiers. C'est principalement le cas des bactéries qui sont arrivées sur la planète. Et puis un jour, les êtres vivants vont découvrir le sexe. En fait, il y a presque 3 milliards d'années, le sexe est apparu. Et avec le sexe, on passe donc d'une reproduction clonale qui répète uniquement la même génétique à part quelques erreurs de reproduction. Et là, on va passer à une reproduction totalement différenciée. C'est la totalité du génome qui change à chaque fois qu'on pratique du sexe. Et depuis cette innovation évolutive, eh bien 95% des eucaryotes pratiquent en fait le sexe.
95%.
Oui, c'est pourquoi c'est important de se pencher sur cette chose étrange qu'est le sexe.
Le sexe est donc apparu très tôt dans l'évolution, mais pourquoi ? La sexualité est une chose importante pour les êtres vivants.
Alors, 95% des organismes eucaryotes pratiquent en effet la sexualité. Ça veut dire que ce sont les protistes, les animaux comme la paramécie par exemple, les plantes, les champignons, et puis tous les autres animaux, depuis les éponges jusqu'à l'humain, pratiquent la sexualité. Et à chaque fois, tous ces eucaryotes, hein, qui sont donc les êtres vivants dont la cellule possède un noyau, eh bien, toutes ces espèces nous révèlent qu'il existe deux sexes. Il y a d'une part un sexe fécondant, celui qui va apporter les gènes, et un sexe fécondé qui va, lui, entretenir la production d'une descendance.
Mais la sexualité change quoi par rapport à la sélection naturelle ?
Eh bien, c'est très précisément quelque chose d'énorme. Le sexe change tout. Car si la sélection naturelle était aveugle, elle dépendait uniquement des événements. Et à la différence de la sélection naturelle aveugle, la parade amoureuse va constituer une sélection intentionnelle. Un choix amoureux librement consenti. Ça veut dire qu'avec le sexe, la liberté de choix est ce qui va orienter l'évolution biologique. Alors c'est évidemment pas du tout soupçonné dans une science qui est très déterministe. Voilà maintenant que la variation intervient, qu'elle intervient au moment du choix, et même les descendants seront tous différents entre eux et différents de leurs parents.
En fait, le sexe désigne plusieurs choses bien différentes apparemment. Cela désigne les organes, le mode de reproduction, mais aussi le genre.
C'est ça, le sexe va en fait désigner tout un ensemble d'éléments très très différents. Voilà pourquoi on peut dire que le sexe diffère de la sexualité, puisque le sexe est à la fois le fait de pratiquer la sexualité, mais c'est aussi le genre, selon qu'on est mâle ou qu'on est femelle, c'est aussi les organes sexuels. Enfin, c'est tout un ensemble d'éléments qui montrent bien qu'il s'agit d'un processus complexe, qui attribue à tout un ensemble d'éléments organiques, de procédures organiques, une fonction particulière. Le sexe, c'est d'abord une fonction, voilà pourquoi souvent on le réduit à la fonction reproductrice. En outre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le sexe anatomique est lui-même très variable chez la plupart des espèces. Depuis, par exemple, des animaux comme les requins qui vont posséder, ou des poissons qui vont posséder des gonopodes, les organes phalloïdes que certains animaux ont, par exemple les oiseaux ont des organes phalloïdes, mais de nombreux oiseaux, notamment les oiseaux chanteurs, ne vont pas avoir d'organes d'intromission. Les tubes urétraux, les phallodéums, par exemple, qu'on trouve, c'est les gymnophiums.
Là, c'est des mots compliqués.
Ce sont toujours des désignations du pénis, d'accord, et des pseudophallus et des pseudopénis, avec des espèces qui, comme les oiseaux chanteurs, n'en ont pas, comme par exemple la plupart des amphibiens n'ont pas d'organes d'intromission, alors que par contre, proche des amphibiens, les gymnophiums possèdent un phallodéum. De la même manière, chez beaucoup de poissons, il n'y a pas du tout d'éléments d'organes d'intromission, mais par contre, chez d'autres, il y en a. Chez les requins, par exemple, on dispose là aussi d'organes particuliers, de gonopodes particuliers qui vont favoriser ça. En fait, on va voir que les organes anatomiques qui permettent la fécondation interne n'existent évidemment que chez les espèces à fécondation interne, et que même chez certaines espèces à fécondation interne, il y a eu des pertes de ces organes phalloïdes, par exemple chez les tritons, chez les oiseaux, on va retrouver ces pertes-là, alors que chez d'autres, chez les galliformes, par exemple, c'est les oiseaux comme la poule ou le faisan, ou encore chez les canards, on va retrouver des phallus ou des pseudophallus. On est donc, on le voit, dans un système complexe, et le mot sexe va désigner un ensemble de choses très complexes et tout à fait fascinantes.
But no one should pay such a price.
C'était Moonspell qui interprétait Domina. Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et toujours sans savoir ce que fait le sexe dans notre histoire. Nous étions donc, Thierry, à la recherche de quoi le sexe était le nom. On a vu que le sexe pouvait désigner des choses bien différentes. Mais alors, qu'est-ce que le sexe ?
Alors c'est clair que le sexe est un mot, s'il y en a, qui veut dire tout un ensemble de choses parfaitement différentes. On en a parlé tout à l'heure avec la problématique déjà de l'évolution des organes sexuels. On sait que chez la plupart des espèces dites à fécondation interne, on va retrouver des organes d'intromission, c'est-à-dire des pénis, des phallus, etc. Et face à ça, on aura également un autre organe particulier, une sorte de petite papille tout à fait sensible, qui est finalement le clitoris. On retrouve ça chez toutes les espèces. Alors évidemment, ça porte pas toujours ce nom-là, c'est pas toujours aussi défini. Chez les crocodiles, par exemple, il y a deux petites papilles en face des zones où le pénis va pouvoir s'insérer. Mais on retrouve en effet tous ces organes chez les espèces à fécondation interne. Le problème, c'est que pour disposer de ces éléments-là, pour disposer d'une anatomie, il faut évidemment avoir cette fécondation interne. En fait, le sexe n'est donc pas une anatomie. On ne devrait pas dire que le sexe, c'est les organes externes comme le pénis ou comme le vagin, puisque beaucoup d'espèces ne disposent pas de cela. Chez les insectes, On dispose de génitalia qui vont permettre d'introduire, mais souvent, même chez les vertébrés, il n'existe pas ni organe d'intromission, ni organe clitoridien, car les femelles vont capter un spermatophore. Les mâles vont en quelque sorte éjaculer, hein, on peut même dire que de ce point de vue, le triton est un éjaculateur précoce.
Wow.
Il voit la femelle, il éjacule, après lui avoir fait sa petite danse, et la femelle va récupérer ce paquet de sperme pour l'introduire elle-même dans son propre organe de reproduction. On n'a donc pas ici d'organes d'intromission, et pourtant, ce sont bien des espèces qui pratiquent le sexe. En outre, on sous-estime souvent l'importance de ces organes. L'anatomie va révéler que ces organes d'intromission sont très différents les uns des autres. Chez les reptiles, on peut avoir par exemple deux hémipénis. Chez les canards, il n'y a qu'un seul pénis et il est très grand, très long. Chez la plupart des espèces de vertébrés, chez les mammifères, on aura des pénis. Chez d'autres espèces, on va avoir des organes phalloïdes, etc. Mais face à ces organes masculins, on a aussi des organes féminins qui sont d'une taille considérable, beaucoup plus considérable que la petite papille sensible qu'on voit généralement à l'extérieur du corps. Le clitoris a souvent une taille très importante. Hein, chez l'homme, chez la femme, il représente à peu près un tiers, un quart de la taille d'un pénis. Hein, on ne se doute pas à quel point ça peut être important parce que c'est interne et tous ces organes internes sont souvent sous-estimés alors qu'ils ont un rôle très important dans le plaisir sexuel notamment.
Effectivement, on ne le voit pas. Mais en fait, c'est toujours une question de taille. Alors, même pour le petit clitoris, est-ce que dire que c'est ça veut dire que le clitoris est seulement un organe sexuel ?
Alors en effet, alors que le pénis va exister en tant qu'organe d'intromission qui va permettre de transmettre les gènes et de transmettre le sperme, le clitoris lui ne sert à rien d'autre que à être
un organe
de plaisir. C'est cependant ce qui est important, c'est de comprendre que en tant qu'organe de plaisir, il subit malgré tout une sélection évolutive, il subit une modification et que cet organe va changer selon les espèces, car il va présenter évidemment tout un ensemble d'atouts parce qu'il ne sert a priori qu'au seul plaisir des espèces. Le développement des clitoris, par exemple chez des animaux comme la taupe ou encore chez la hyène, nous montre bien que ce n'est pas que son homologue masculin, le pénis, n'est pas seulement un organe d'intromission. On sait depuis pas mal d'années maintenant avec ce qu'on a appelé la sélection sexuelle que la taille du pénis, que la forme du pénis et des testicules peuvent influencer les taux de reproduction, peuvent influencer la séduction. Et chez les femelles, la taille du clitoris peut avoir un rôle tout à fait similaire. Alors évidemment, chez les hyènes, ce clitoris énorme, qui est plus gros que le pénis des mâles, est évidemment tout à fait impressionnant. Et puis, il faut aussi se rappeler que ce clitoris est réservé au sexe, et uniquement au sexe. Ce sont les femelles qui disposent d'un organe dévolu au sexe, alors que les mâles, eux, disposent d'un organe qui serait dévolu à la reproduction. On pourrait dire quasiment que le sexe reproducteur dans la nature, c'est le sexe mâle. Les mâles ne peuvent pas faire autrement que d'envoyer des spermatozoïdes dès qu'ils pratiquent la sexualité, alors que les femelles ne sont pas obligées d'ovuler à chaque fois, d'une part, et d'autre part, elles disposent d'un clitoris qui, lui, évidemment, ne participe pas du tout à la reproduction. Et puis les choses peuvent être encore plus étonnantes. On a par exemple une mouche dans la nature, la Neotrogla. Eh bien, c'est la femelle qui va pénétrer le mâle. Elle fait pénétrer une sorte d'ovipositeur, c'est-à-dire une sorte d'organe particulier qui normalement lui servirait à déposer ses œufs et qui là va lui servir à aller chercher le sperme à l'intérieur de l'organe du mâle qui est creux. Et donc elle va le pénétrer, elle va fouiller et elle va récupérer le sperme à l'intérieur du mâle. On a donc ici une femelle qui pénètre le mâle.
Chez les animaux, le sexe est cependant déterminé par les chromosomes sexuels, les fameux X et Y.
Alors oui, évidemment, on pourrait penser que ce qui va déterminer l'individu sexué, c'est un genre, c'est le sexe dit génétique. Car le corps est d'abord déterminé par tout un ensemble de chromosomes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chez la plupart des vertébrés, le corps est d'abord déterminé par le X. Ce qui vient changer le X, c'est le Y. C'est-à-dire qu'à la base, le corps est féminin, et ensuite, il y a une petite modification avec un facteur qu'on appelle le facteur SRY, qui va venir modifier la fabrication du corps pour fabriquer un mâle. Chez certaines espèces, le déterminisme du sexe va donc être lié à ce qu'on appelle les hétérochromosomes. Chez des espèces comme les tritons, ou comme les humains, ou comme de nombreux poissons, les femelles sont XX, et les mâles sont XY. Le Y vient donc modifier le corps des a priori femelles à la base. Chez d'autres espèces, on a un processus différent puisqu'on a des femelles qui sont ZW, donc hétérochromosomiques et les mâles qui sont homochromosomiques avec un ZZ. Là, du coup, c'est le W qui vient fabriquer des femelles. On trouve ça chez de nombreux oiseaux. Mais en fait, le système n'est pas si clair que ça, puisque, par exemple, chez le poulet, où il y a 76 chromosomes, plus le chromosome ZZ chez les mâles et le chromosome ZW chez les femelles, le W ne va pas vraiment fabriquer une femelle, c'est plutôt la présence de deux Z qui va fabriquer un mâle. Et puis il existe enfin un autre système, le système où les animaux ont tout simplement un X0 pour être mâle. C'est-à-dire que les mâles vont être, par exemple chez le criquet, on a 22 chromosomes plus X et c'est un mâle. Si on a 22 chromosomes plus XX, eh bien on est une femelle. Ça prouve quelque chose d'assez essentiel, c'est que la formation du chromosome Y constitue en fait une dégénérescence chromosomique.
Eh bien voilà, je savais que les mâles étaient dégénérés.
À la base, en fait, l'individu sexué est tout à fait différent de ce qu'on pouvait supposer. Le muséum, par exemple, nommait les espèces à travers les mâles. Mmh. On dit par exemple que c'est un chien, le chat, le dauphin, l'éléphant. Alors que le corps, à l'origine, est femelle XX. XX. Et que c'est un drôle de chromosome, le Y, qui va transformer le X le corps en un corps mâle. Mais ce chromosome Y est lui-même un X dégénéré qui possède quelques facteurs particuliers et uniques pour lui-même, mais ce ne sont pas les facteurs les plus fréquents dans la nature. Et puis, il y a aussi de nombreuses espèces chez qui, tout simplement, les chromosomes ne sont pas différenciés. Chez beaucoup d'amphibiens, chez beaucoup de reptiles, eh bien, il n'y a pas de différence de chromosomes. Le sexe ne vient pas des chromosomes. Il faut comprendre que les XY sont des chromosomes très très jeunes. Ils sont arrivés en fait sur la planète il y a moins de 160 millions d'années. Chez de nombreuses espèces, le sexe va donc provenir d'autres choses. Alors, il y a une étude qui a été menée par exemple chez l'ornithorynque par Kaisman en 2010 et qui nous montre que les chromosomes XY chez les mammifères sont très jeunes, moins de 160 millions d'années, c'est-à-dire à une époque où on était déjà au milieu de l'ère des dinosaures, alors que le sexe, lui, était très très ancien, il est bien plus ancien que ça. Donc il faut bien comprendre que les chromosomes sexuels sont apparus bien après le sexe. En aucun cas, on peut donc affirmer que le fait d'avoir tel ou tel chromosome sexuel fait de nous un sexe particulier.
La génétique, en effet, est troublante. Il existe aussi des espèces dont le sexe n'est pas déterminé une fois pour toutes, qui sont mâles et femelles en même temps.
Alors oui, il y a effectivement un véritable problème. Il y a beaucoup de plantes, d'animaux, qui vont posséder les deux sexes en même temps. Ce sont des animaux hermaphrodites. Du coup, on pourrait s'exposer à une autre question. Pourquoi a-t-on besoin de se croiser? Pourquoi pratique-t-on de la sexualité quand on a du sexe? Voilà des animaux qui sont sexués, contrairement aux bactéries, et ils vont pratiquer de la sexualité. Parce qu'ils ont besoin de croiser leurs gènes. Prenons par exemple le ver de terre. Eh bien, les vers de terre sont en effet mâles et femelles. Mais ils vont pratiquer un accouplement homosexuel à un stade donné de leur vie pour s'échanger du sperme. Alors le sperme va glisser le long d'une petite gouttière, les deux mâles vont s'associer, vont s'accrocher l'un à l'autre et ils vont s'échanger du sperme. Et le sperme va alors aller dans une spermathèque, une sorte de bibliothèque à sperme que le mâle possède en lui. Et ensuite, il va utiliser ce sperme pour féconder sa partie femelle. Il va féconder les ovules qu'il va produire au fur et à mesure de sa vie. La même chose se passe par exemple chez des espèces comme les escargots, où vous pouvez assister à des accouplements d'escargots, mais il s'agit bien entendu d'appariements homosexuels. Cet échange du sperme nous montre bien que chez les espèces qui sont à la base hermaphrodites, comme devait l'être les tout premiers animaux qui ont pratiqué le sexe ou qui ont inventé la sexualité, ces espèces-là devaient être hermaphrodites. On peut donc présupposer que, primitivement, ce sont les appariements homosexuels qui ont précédé le sexe gonochorique, c'est-à-dire le sexe séparé. On voit donc ici que l'homosexualité est d'une importance capitale, puisque c'est avec l'homosexualité que le sexe est probablement apparu sur la planète Terre.
Il faut aussi que le sexe d'un individu devienne opérant. Il faut une excitation sexuelle pour pratiquer la sexualité.
Et oui, c'est là où on voit là encore que le sexe est différent de la sexualité. Parce que pour faire du sexe, pour faire de la sexualité, il va falloir en effet utiliser tout un ensemble d'éléments qui vont nous exciter. C'est quasiment la seule élément organique pour lequel on a besoin d'une excitation donnée. Hein. Quand on va uriner, on n'a pas besoin d'être excité, etc. Quand on a faim, on a besoin de la ressentir, mais on n'a pas non plus besoin de s'exciter par rapport à la nourriture. Alors que pour le sexe, il faut monter une sexualité, il faut petit à petit que tout ça devienne disponible l'un par rapport à l'autre, réceptif l'un par rapport à l'autre. D'où le fait qu'on peut présupposer que les hormones ont un rôle essentiel dans le sexe. Le sexe est peut-être finalement plus hormonal, puisqu'il n'est ni dans l'anatomie, ni dans les gènes, les hormones étant très anciennes et les hormones ayant un rôle très important, on pourrait présupposer que le sexe est d'abord hormonal. Alors, chez les mâles, la testostérone et l'androstérone, chez la femelle, ce sont les oestrogènes, les oestradiols, l'oestradiol qui est vraiment l'oestrogène majeur, et puis la progestérone. Le problème, c'est que l'oestradiol, l'hormone femelle, va être également présent chez les mâles et à des taux comparables à ce qu'on trouve chez des femelles vieillissantes. On va dire là encore qu'il y a une sorte de gradient. Certains mâles en possèdent beaucoup, d'autres très peu, mais l'estradiol est présent chez les mâles. Et puis encore plus surprenant, ce sont les femelles qui vont produire le plus de testostérone. Enfin, elles vont produire 60% de la testostérone de ce que produit un mâle, mais c'est grâce au chromosome X que la testostérone est produite. Autant vous dire de suite que finalement, si nous n'avions pas les mâles un X, eh bien on ne pourrait pas produire notre hormone dite masculine, la testostérone. Et les femelles peuvent produire jusqu'à 60% de la testostérone d'un mâle, de la moyenne d'un mâle, ce qui veut dire qu'il y a des mâles qui possèdent moins de testostérone que certaines femelles, et des femelles qui possèdent évidemment plus de testostérone que les mâles. L'âge va jouer un rôle important, mais il n'y a pas que l'âge. Les molécules œstradiol et testostérone sont très très proches l'une de l'autre. C'est vraiment une petite oxydation qui va changer les choses. Et ces deux molécules très très proches peuvent même passer de l'une à l'autre. On voit donc ici que le sexe tient compte des hormones, il a besoin des hormones, mais il est loin d'être déterminé par les hormones.
Ah, quel mystère, quelle alchimie! Le sexe dépend donc de multiples facteurs, simplement pour exister. Il y a aussi les animaux dont le sexe est lié à d'autres conditions, des espèces qui peuvent changer de sexe, un peu comme des transsexuels. Hein.
Oui, finalement, on va voir que les transsexuels sont très importants dans la nature. Mais commençons déjà par essayer de toujours comprendre qu'est-ce qui va déterminer le sexe. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que l'environnement, l'histoire des individus, va jouer un rôle majeur dans le déterminisme du sexe. Par exemple, chez de nombreuses espèces, y compris chez les vertébrés, comme par exemple les alligators, les crocodiliens, eh bien, l'embryon va devenir un mâle ou va devenir une femelle en fonction d'un facteur de l'environnement, la température. Selon la température d'incubation des œufs, eh bien, l'animal va devenir une femelle ou un mâle. Si l'œuf présente une chaleur assez importante, parce qu'il est par exemple au centre du nid, eh bien, il donnera un mâle. Si l'œuf, au contraire, est à la périphérie du nid, il va donner une femelle. Cette particularité de la température
c'est
dans
étonnant.
Le fait de déterminer le sexe nous montre à quel point l'environnement peut faire des mâles ou peut faire des femelles. L'environnement de l'espèce au sens physique du terme, c'est donc dire à quel point le sexe est variable. Chez les tortues, c'est l'inverse. Le plus souvent, ce sont les femelles qui ont besoin d'une haute température à l'intérieur du nid, alors que les mâles, eux, peuvent se contenter d'une température périphérique. Ça veut dire que dans certains nids d'alligators ou de tortues, il y aura 100% de femelles. Dans certains autres nids, il y aura 100% de mâles. Et puis dans la majorité des nids, il y aura 50-50.
Étonnant. La transsexualité existe aussi dans la nature. Des animaux changent de sexe au gré des circonstances.
Alors oui, parce que non seulement les animaux peuvent être influencés dans leur sexe définitif par la température, mais on a aussi d'autres facteurs, et notamment des déterminismes sociaux. Par exemple, chez de nombreux poissons, chez les labres par exemple, les individus sont des femelles. Et puis c'est la femelle qui va être la plus âgée qui va devenir le mâle. Elle va se transformer peu à peu en mâle physiologiquement. On voit ici que c'est l'influence sociale qui va déterminer le sexe. Influence sociale, influence historique, parce que l'individu va choisir à un moment donné ou non de changer de sexe. L'individu le plus âgé va se transformer dans le sexe, dans l'autre sexe, en fonction des facteurs de son environnement social. Chez un mollusque, la crépidule par exemple, eh bien les individus sont mâles. Mais c'est l'individu qui va être situé sous les autres, c'est celui qui se fait monter dessus, qui devient automatiquement une femelle. On voit donc que le déterminisme social, le déterminisme historique, le déterminisme environnemental sont aussi importants que les hormones, voire même aussi plus importants que la génétique.
Oui, les crépidules, c'est
des petits mollusques qu'on trouve fréquemment.
Qui se suivent les uns à côté des autres, à couler.
Ils sont généralement posés l'un sur l'autre, c'est pour ça qu'on les appelle les crépidula fornicata en latin, parce qu'ils passent beaucoup de temps à forniquer.
Alors, on parle parfois de multiples sexes dans la nature. Ainsi, dans l'émission sur le blob, Audrey Dussoutour nous avait dit que bien que le blob dispose de centaines de formes sexuelles, il n'y a cependant que deux sexes.
Oui.
Qu'est-ce que cela veut dire,
Thierry ? Il y a en fait un sexe qui est généralement fécondant et mobile, le mâle, et un sexe fécondé qui va être, lui, énergétique. Donc si on part même d'un hermaphrodisme primitif à la base, à partir de cet hermaphrodisme primitif, les sexes mobiles, ça a toujours été les mâles, donc ce sont des formes mâles qui vont s'échanger du sperme, le stocker et ensuite féconder leurs propres ovules. Et puis quand on est dans le gonochorisme, c'est-à-dire les deux sexes séparés, chez deux individus différents, hein, on va avoir une atrophie en fait de ce type, d'un des deux types de gonades, et certains individus vont devenir des mâles, tout en gardant plein de processus femelles en eux. Hein, il y a une féminité des mâles. Et puis, d'autres individus vont devenir des femelles, tout en gardant plein de processus masculins en eux. En fait, ces espèces qui sont coupées en deux entre mâles et femelles vont en fait s'entretenir en tant que sexe important. Et pourtant, les mâles et les femelles vont bien être différents. Et il y a une formation de la différence qui est très importante. On appelle ça le dimorphisme sexuel. Le petit singe vervet, par exemple, le mâle va avoir un pénis rouge et puis des testicules bleus.
Oui, c'est amusant, ça.
Voilà. Chez les faisans, le mâle est très coloré, la femelle est très terne.
Eh oui.
Chez beaucoup d'antilopes, le mâle va avoir des cornes, la femelle, elle, n'en aura pas.
Les mâles et les femelles sont donc bien différents les uns des autres, et parfois même très différents, voire des géants et des nains.
Le dimorphisme sexuel est très important chez de nombreuses espèces, mais ce n'est pas, là encore, la différence entre les deux sexes qui fait le sexe. Prenez les renards, ils se ressemblent. Les guêpiers sont très semblables. Beaucoup d'espèces ne peuvent pas se différencier. On ne peut pas différencier facilement un criquet d'un mâle d'un criquet femelle. Tout va dépendre des espèces. Certaines espèces, comme le faisan, on l'a vu, sont très différentes entre mâles et femelles. D'autres espèces sont au contraire très proches. On voit donc ici que les stratégies sexuelles et que l'histoire du sexe va avoir beaucoup d'importance dans la formation des espèces. D'ailleurs, il faut se rappeler que la sexualité peut même se dérouler chez des espèces qui n'ont pas de sexe. Prenez par exemple la conjugaison. Alors, on appelle ça la conjugaison post-méiotique chez les paramécies. Ce sont des êtres unicellulaires. Il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle chez les paramécies. Et pourtant, elles vont faire de la syngamie, elles vont faire de la méiose, c'est-à-dire qu'elles vont faire du sexe. On a deux paramécies qui vont s'associer l'une à l'autre pour s'échanger des gènes. Et cette association entre les deux, cette conjugaison, c'est de ce mot conjugaison que nous vient notre vieux mot conjugal, hein, conjugalité, eh bien cette conjugaison va c'est bien une pratique du sexe. On a donc du sexe sans que les individus aient un sexe. La même chose peut être possible avec les lézards dits parthénogénétiques. Là, on a un sexe, puisque tous ces lézards sont des femelles, et elles vont faire des bébés ensemble, comme par exemple chez Aspidocelis. Ces deux femelles de lézards vont faire des bébés ensemble, il n'y aura évidemment pas de fécondation. Il s'agit d'un accouplement homosexuel entre deux femelles, entre guillemets, lesbiennes, et le comportement de l'une va être nécessaire pour que l'ovule de l'autre développe un embryon. On a donc ici une femelle qui va monter sur l'autre, qui va adopter un comportement mâle, et c'est ce mouvement, ce comportement mâle, qui va déclencher chez l'espèce la parthénogénie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un embryon sans fécondation.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. il était redevenu tout triste. Ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.
C'était la charmante musique Le Petit Bal Perdu par Bourvil. Alors Thierry, on voit que le sexe figure en bonne place parmi les problèmes évolutifs non résolus de manière satisfaisante par le processus darwinien de sélection naturelle. Devant toutes ces différences et ces contradictions, comment on peut comprendre ce qu'est le sexe ?
Eh bien, pour cela, il va falloir quitter la description anatomique, la description physiologique pour comprendre l'histoire du sexe.
Au temps du darwinisme, on pensait que les deux sexes étaient fondamentalement complémentaires et s'associaient dans une activité de reproduction. Mais les scientifiques ont découvert depuis qu'il existe une contradiction avec cela.
Oh là là, bien plus qu'une contradiction même, il y a des conflits, des batailles. En fait, il faut admettre que le sexe est autre chose et donc il faut pour cela en chercher l'origine et le sens. D'abord, se reproduire ensemble, ce n'est pas facile. Mâle et femelle ne se comprennent pas. C'est compliqué, hein. Par exemple, quand la femelle dit au mâle « Tu peux sortir la poubelle, chérie ?» Il va répondre « Oui, je peux. » Oui, mais de là à le faire, il y a une différence. Bon, bref, il y a une divergence d'intérêts. Quand le mâle peut multiplier des partenaires et peut avoir des centaines de descendants, la femelle est limitée par le nombre de descendants qu'elle peut avoir. On imagine, par exemple, 33 enfants chez un homme. Eh ben, c'est facile, il suffit de séduire 33 femmes. Mais 33 enfants chez une femme, c'est évidemment très compliqué.
Très compliqué, oui.
Cette divergence d'intérêts s'appelle le conflit des sexes et c'est ça qui conduit la mante religieuse à manger le mâle, notamment.
La divergence, c'est donc une divergence d'intérêts, mais le conflit des sexes fait que les mâles et les femelles composent une sorte de guerre des sexes.
Oui, une guerre des sexes avec des organes très armés, car c'est une divergence qui conduit à une évolution contradictoire entre mâles et femelles. On parle d'une évolution antagoniste. Pourquoi ? Parce que le père ne sait jamais s'il sera vraiment le père. Alors voilà pourquoi, par exemple, chez la belette, l'os du pénis va lui permettre de tenir plusieurs heures la copulation. En restant plusieurs heures avec la femelle, eh bien, il est sûr que pendant ce moment-là, elle ne va pas aller voir ailleurs. De la même manière, chez le canard, hein, c'est parmi les plus violents des animaux, la taille du phallus va lui permettre de blesser la femelle. Normalement, son pénis, alors, on prend par exemple le canard colvert, hein, c'est un pénis d'environ 8 cm, ce qui est très grand par rapport à la taille de l'animal, mais chez les rhismatures, le pénis fait 42 cm.
Oula !
C'est un pseudo-phallus, c'est-à-dire qu'il est supérieur à la taille de l'animal. C'est comme si on avait, nous, un pénis de 2,50 m. Hein,
Effectivement, ce serait impressionnant.
Voilà. L'objectif, c'est de blesser la femelle, de lui faire du mal pour lui dire, bon, mais t'as vu ce que c'était que de faire l'amour, tu vas pas recommencer une deuxième fois, et donc tu ne vas pas me tromper.
Ah là là, terrible. Hein. Ce conflit des sexes est une grave incompréhension entre mâle et femelle, finalement. Mais est-il vraiment actif sur l'évolution ?
Oui, en fait, car le sexe va limiter la pérennité de l'espèce. Prenons par exemple le conflit des sexes chez le lion. Le lion mâle va s'emparer d'un territoire en chassant les vieux mâles. Ensuite, il va tuer tour à tour tous les lionceaux qu'ont les femelles. Comme les lionnes ne vont plus allaiter, puisqu'elles auront perdu les lionceaux que le mâle aura tués, elles vont redevenir fertiles. Eh bien, on voit donc que le conflit des sexes va réduire les descendants. Si le lion va réduire la reproduction des lionnes, bien que, évidemment, il va lui-même chercher à se reproduire. Chez la mante religieuse, elle va décapiter le mâle. Alors ça, forcément, ça va réduire de beaucoup ses aventures sexuelles. Et comme le lion tue les lionceaux, ça diminue la reproduction des femelles. Ouais. On voit donc bien que le conflit des sexes réduit la reproduction et donc l'évolution des autres espèces.
Un peu définitif, effectivement, comme solution. Du coup, les divergences entre les deux sexes ne sont donc pas favorables à la reproduction. Alors, pourquoi l'évolution a-t-elle retenu le sexe comme processus évolutif ? Finalement, on revient à la question fondamentale, à quoi sert ce sexe ?
Oui, la coévolution des sexes est antagoniste. Si vous préférez, on peut dire qu'il ne faut pas essayer le sexe parce que c'est beaucoup trop dangereux pour la santé. Le sexe rend la reproduction difficile et dangereuse. Chez la drosophile, par exemple, la femelle prend un risque pour sa santé si elle copule avec plusieurs mâles. Pourquoi ? Parce que le sperme est toxique. chez les drosophiles. Et pour être certain d'être le père, le mâle va éjaculer un sperme qui peut tuer les spermatozoïdes d'un autre mâle. Mais c'est tellement toxique que la femelle peut en mourir si elle copule plusieurs fois. Ainsi, le mâle va s'assurer de la fidélité de la femelle et donc il va s'assurer d'avoir des descendants. Bon, la même chose peut se passer chez des animaux comme le crapaud commun, par exemple.
Si la sélection naturelle favorise celui qui transmet le plus de bons gènes à la génération suivante, comment un processus aussi complexe et onéreux que le sexe a-t-il pu émerger au cours de l'évolution ? En fait, si on regarde d'un point de vue évolutif, le sexe n'est pas un système très pratique.
En effet, Fiona, c'est pas un système très pratique, c'est même une très mauvaise idée pour se reproduire. On pourrait donc dire à nos auditeurs, n'essayez pas le sexe, c'est une trop mauvaise idée pour se reproduire. Pourquoi ? Eh bien, déjà, on ne peut donner que 50% de ses gènes, alors que si on était une bactérie, on se couperait en deux, on donnerait 100%. Là, on peut en donner que la moitié. Les cellules femelles, elles-mêmes, sont divisées, et certaines sont résorbées au profit d'un seul ovule. C'est-à-dire qu'à chaque cellule, il va y avoir là encore une sélection de certaines cellules et de part d'autres. Et puis il y a la production des annexes, les coquilles, le mucus. Tout ça, ça coûte beaucoup, beaucoup d'énergie. Le gaspillage des spermatozoïdes. Il faut voir que le porc, par exemple, peut envoyer 1 milliard de spermatozoïdes.
Oui.
Tout ça pour faire 5 à 8 bébés. On voit que c'est pas très, très, très pratique. C'est donc une très mauvaise manière de diffuser ces gènes. Et puis, il y a encore le risque de maladie. Évidemment, tout le monde connaît le fait que s'approcher l'un de l'autre, eh bien, c'est parfois risquer des maladies transmissibles. Et donc des maladies qui peuvent être évidemment porteuses d'un danger pour la pérennité de l'espèce. Pensez également que chaque espèce est partagée en deux, puisqu'il y a les mâles et les femelles. Ce qui veut dire que si on cherche quelqu'un dans le brouillard, eh bien, il va falloir être sûr qu'il s'agisse de l'autre sexe. C'est déjà pas facile. Chez les mésanges, par exemple, on voit souvent des femelles qui vont s'associer et qui vont nidifier ensemble. Cette difficulté de trouver l'autre sexe reproducteur n'est pas simple. Car il faut en plus que l'autre sexe soit adulte et soit actif sexuellement. On peut aussi complètement se tromper. Il n'est pas question de copuler avec un trop jeune ou un trop vieux. Il faut donc aussi trouver un partenaire réceptif. Car non seulement il faut qu'il ait le bon âge, qu'il soit de l'autre sexe, mais il faut qu'il soit disposé à nous recevoir. Et pour être disposé à nous recevoir, les individus doivent travailler à se séduire, à s'exciter. Cette séduction est très longue. Il faut tout un ensemble de paramètres. Il faut inviter sa grenouille au restaurant, son crapaud à lui offrir des fleurs, etc.
Enfin,
c'est très, très compliqué. Et en plus, au bout de tout ça, on n'est même pas du tout certain de réussir.
Que de conditions.
Pour résumer, chez les femelles, une seule cellule sur 4 produite à la méiose va permettre la reproduction. Lors de la fabrication des cellules sexuelles, ces cellules haploïdes ne contiennent que la moitié des chromosomes. Il faut donc adjoindre le coût engendré par les mâles, qui gaspillent un nombre invraisemblable de spermatozoïdes, la prodigalité effarante d'énergie dans l'acquisition de caractères secondaires, dans les parades, dans les batailles, et en outre, la recombinaison sexuelle est susceptible de détruire toute l'activité adaptative réalisée au cours de la sélection de la lignée. Puisque pendant la lignée, les espèces ont été sélectionnées pour réussir ceci ou cela, mais qu'avec le sexe, on va jeter en l'air toutes les cartes et toutes les redistribuer d'une manière différente. Le sexe est donc coûteux et manifestement contre-sélectif.
On dirait que le sexe ne correspond à rien de ce que l'on pensait. Comment l'évolution a-t-elle pu retenir un processus aussi compliqué ?
Oui, le sexe ne fait que compliquer la vie de plus de 95% des espèces.
Finalement, à quoi ça peut servir le sexe ?
Ah ben, il existe un ensemble de théories qui ont essayé de replacer le sexe dans une perspective darwinienne, c'est-à-dire de le resituer dans un processus de reproduction.
Oui, ces théories sont très nombreuses même, pour tenter de donner un rôle au sexe à travers les échanges de gènes.
Tout à fait. Donc on va essayer de dire qu'il y a deux grandes orientations théoriques. La première, pour que le sexe serve à quelque chose, c'est qu'il servirait à réparer l'ADN. La recombinaison sexuelle lors de la méiose serait un processus de réparation. Et cette recombinaison réduirait les erreurs et les mutations délétères.
Ces théories font donc du sexe un processus de réparation et de mélange des gènes.
Alors, originellement, c'est pas totalement faux. Le sexe est peut-être descendant des mêmes gènes que ceux qui réparent l'ADN. Ce sont les fameux gènes REC. Mais il existe tout un ensemble qui fonctionne en même temps.
Alors, le sexe serait apparu comme un système de réparation, une sorte de garagiste de nos gènes.
Oui, alors, ça pourrait servir à réparer l'ADN. Et pourtant, il faut savoir que les bactéries n'ont pas de sexe. Et pourtant, elles réparent très bien leur ADN. Elles possèdent des gènes REC. C'est ce que Redfield a pu démontrer en 2001. Et puis, des animaux asexués, comme par exemple les rotifères bdelloïdes, qui sont parthénogénétiques, eh bien, ils n'ont pas plus d'erreurs de mutation. Ils n'ont pas plus de mauvaises mutations que les autres, comme l'ont montré, là, également, Fontanetto et Hall en 2017. Or, les populations de rotifères ne comprennent quasiment pas de mâles dans leur population.
Eh bien, ces théories ne fonctionnent pas, alors.
En effet, elles partent pourtant d'une bonne idée. Hein. À la base, ce sont des gènes qui réduisent ou qui changent l'ADN, les gènes REC, ce qui ressemble à un processus de réparation. Alors donc, il faut que d'autres auteurs y voient autre chose.
C'est-à-dire que ces théories vont s'appuyer sur l'effet du sexe
oui.
sur les gènes. Hein.
Et là, ça va être des théories carrément contradictoires, puisqu'elles vont se fonder non pas sur un aspect conservateur, on répare l'ADN, mais sur un aspect diversité des génomes. Le sexe servirait à fabriquer des génomes variés, de la variation. Parce que la variation favoriserait, par exemple, l'adaptation à l'environnement. C'est la théorie, par exemple, de Giselin, ou encore à la variété des milieux naturels.
Donc, le résultat du sexe, c'est la variation. Alors, pourquoi ne pas imaginer, en effet, que le sexe est fait, tout simplement pour cela, faire de la variation ?
Ah ben oui, le sexe pourrait servir à faire varier les corps. Le problème, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, la recombinaison sexuelle va davantage casser les gènes, l'association de gènes favorables, plutôt qu'elle en construit. Bon, par exemple, dans les milieux hétérogènes, ben, c'est très difficile de s'y adapter si on n'a qu'un seul type de gène.
Ah ben oui.
En outre, l'adaptation va sélectionner ces combinaisons, un peu comme on ferait des carrés, des suites dans un jeu de cartes. Alors si on jette le jeu de cartes, c'est comme si on jetait 25 000 jeux de cartes en l'air à peu près, pour l'humain c'est 25 000 gènes. Donc on jetterait ces 25 000 jeux de cartes en l'air et on voudrait retrouver les carrés, les cartes bien rangées ensuite, etc. Bon, c'est ce qui conduit par exemple des animaux comme les drosophiles avec des mutations qui ont des yeux rouges et qui sont aveugles et qui peuvent même en mourir, ou des animaux qui vont être totalement blancs, on en voit souvent en zoo, hein, parce qu'ils sont complètement altérés génétiquement.
Quel que soit l'angle théorique qu'on prend, le sexe s'enlise toujours. Ni réparateur, ni variant, le sexe ne sert à rien.
Eh
alors.
Oui, le sexe ne sert à rien, et pourtant il est essentiel à la pérennité des espèces. C'est donc dire que, d'un point de vue évolutif, le sexe n'est pas une amélioration des procédures adaptatives. D'ailleurs, la reproduction n'a pas besoin de sexe. Les staphylocoques ont appris à varier et à résister, et ça sans sexualité. Les néréis, ce sont des grands vers marins. Eh bien, ils sont capables de se reproduire sans sexualité, en se coupant par morceaux. Et pourtant, les néréis font quand même le sexe. On a donc de la reproduction possible chez de nombreuses espèces, et puis du sexe, en plus ou en moins.
C'est évident que les orientations ne facilitent pas la reproduction en elles-mêmes. On dirait que chacun aime qui il veut.
Tout à fait, parce que le sexe n'est pas la reproduction non plus. Par exemple, quand on fait une fellation, comme chez les orang-outans, des cunnilingus comme chez les singes vervets ou chez les chauves-souris, ou encore, bien sûr, quand on a de l'homosexualité ou de la masturbation, on est très loin de pratiquer de la reproduction. Et cependant, il faut bien admettre qu'on fasse quand même du sexe. Love is strange.
Love is Strange de Buddy Holly. Vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiqués du bulbe Science en Liberté. Le sexe est donc un procédé inventé durant l'évolution, mais le sexe ne semble pas avoir le rôle que les néo-darwiniens lui proposent. Le sexe reste une énigme évolutive, en fait. On a vu que les différentes théories butaient toujours sur le rôle du sexe, n'est-ce pas Thierry ?
Oui, et c'est même à cause du fait de garder cette énigme que les créationnistes peuvent critiquer le néo-darwinisme. Ils affirment que la théorie est incapable de donner une explication cohérente à la sexualité, et sur ce point, ils ont raison.
En effet, plus on l'étudie, moins le sexe ne sert à quelque chose. C'est comme si l'évolution avait retenu un procédé coûteux et trop complexe.
Voilà, mais on peut se sortir de cette impasse. Et pour cela, il faut revenir en arrière et considérer ce qu'est l'évolution elle-même. Se rappeler que le sexe existe chez des organismes non sexués et que par conséquent, la sexualité n'est pas une amélioration des procédures adaptatives. En fait, il faut imaginer une théorie historique. On va donc revenir en arrière. Il faut comprendre d'où il provient. Il faut partir de ce que j'ai appelé la théorie des bulles primitives. Alors, ces bulles primitives, ce sont des bulles toutes simples. Hein. Ce sont des molécules biologiques complexes qui sont encapsulées à l'intérieur de films lipidiques. On va donc dire que ces bulles se sont formées il y a environ 3 milliards d'années, à la fin de l'Archéen, au début du Protézoïque. Dans les tourments volcaniques de cette Terre primitive, il y a 3 milliards d'années, en gros, les bulles vont se diversifier. Certaines vont tomber à la surface, elles vont vivre séparées les unes des autres, et elles vont fabriquer une paroi solide et protectrice, fondée avec des peptidoglycanes, enfin tout un ensemble de choses. Ces bulles vont devenir finalement, tout simplement, des bulles absolument solitaires, qui vont vivre sans jamais pouvoir se re-rencontrer. Ce sont les bactéries, capables de former des films bactériens, mais jamais capables de s'associer. Les autres bulles, elles vont être totalement différentes. Elles vont tomber dans des creux où elles seront protégées de toute irradiation, de toutes les tourments de la Terre primitive. Mais en revanche, elles vont vivre dans une incroyable promiscuité. Et elles sont obligées de tout avaler les unes par rapport aux autres. Et elles vont se manger leur propre ADN dans cette promiscuité obligatoire.
Oui, c'est une belle théorie qui avait été publiée par toi dans BioEssai. Ces premières bactéries ne feront pas vraiment du sexe, alors Thierry ?
Alors, les bactéries isolées au milieu de conditions sévères dans une planète débutante n'ont survécu que grâce à leur petite taille, un génome circulaire, une paroi de peptidoglycane notamment, bien que leurs échanges se soient limités à quelques plasmides ou contacts partiels. Au contraire, les eucaryotes, les êtres à cellules à noyau, montrent des caractéristiques propres, directement liées à l'émergence de la sexualité. Probablement parce que ces proto-eucaryotes ont eu l'obligation d'entretenir des relations de promiscuité à un stade très avancé. C'est ça le scénario de la théorie des bulles primitives. Alors chez les bactéries, pas de sexualité. Ce sont des cellules isolées, sans noyau, un seul chromosome, et elles ont en fait très peu d'échanges recombinants. La plupart du temps, elles peuvent pratiquer des échanges à travers des plasmides, qui sont une petite partie de l'ADN, ou alors à travers des virus qui vont petit à petit transporter de leur ADN. Mais on n'a pas de recombinaison. Chez les eucaryotes, au contraire, ce sont des quantités d'ADN énormes qui vont s'échanger en recombinant, et ce sont des cellules énormes. Hein. Une cellule eucaryote, c'est 10 000 fois plus gros qu'une bactérie. Et ces échanges recombinants se font sans arrêt. On a sans arrêt ces relations conjugales chez les colpodes, chez les lions, chez les éléphants. Tout ça parce que ces bulles vont sans arrêt pratiquer un échange permanent de leurs gènes.
Il y va donc une grande différence entre les bactéries et les autres organismes.
Voilà, sommairement, la simple assimilation de gènes supplémentaires à travers la perméabilité des protomembranes chez les espèces qui vont être chez ces bulles primitives qui sont dans des conditions de promiscuité incroyables va conduire à des proportions considérables d'ADN. C'est ce qu'on a chez tous les eucaryotes. Et puis, il va y avoir la formation d'une sorte d'hétérogénome hein, avec une diploïdie qui va se rééquilibrer en réaction. L'échange de gènes va promouvoir la rénovation des enzymes et va favoriser celles qui sont les plus tolérantes à cet échange. Les bulles les plus libertines en quelque sorte. L'énorme quantité de matériel génétique qui est susceptible d'affecter la stabilité cellulaire va donc être réduite par un procédé de réduction méiotique. Et puis il va y avoir aussi une spécialisation alimentaire qui avait déjà été permise par la phagocytose qui va autoriser la séparation des sensibilités trophiques d'une part et des sensibilités sexuelles de l'autre. La sexualité méiotique est donc d'abord apparue chez des êtres vivants non sexués, comme d'ailleurs en témoignent actuellement les paramécies hein, ou les colpodes. Et là, le sexe recombinant va se développer, bien que les individus ne soient pas de manière individuellement sexués. La simple promiscuité primitive dans des creux de l'environnement et la perméabilité sélective des membranes ont dû suffire pour activer les premières réactions, qui sont probablement dérivées d'ailleurs de réponses trophiques. Et puis après, il va y avoir d'autres paramètres, et notamment le paramètre de spécialisation, qui est d'une importance capitale en évolution et dont on parle assez peu. Cette spécialisation en anisogamie, c'est-à-dire avec des gamètes spermatozoïdes d'un côté, ovules de l'autre, la division de ces cellules sexuelles spécialisées, l'une qui va être fécondante et l'autre fécondée. Alors d'un autre côté, ces proto-eucaryotes, donc dans la promiscuité du substrat, vont devenir des bulles perméables à l'échange génétique. Et c'est cet échange génétique qui va permettre cette ruse de l'évolution. Les bulles protocellulaires qui vont pratiquer l'échange vont être favorisées, même très peu. Pourquoi ? Parce que l'échange génétique va leur permettre de renouveler leurs protéines métaboliques. Et voilà comment le sexe s'est mis en place.
Et on va retrouver ce procédé qui est conservé au fur et à mesure de l'évolution des êtres vivants, depuis des êtres unicellulaires, puis pluricellulaires.
En effet, le sexe est l'exemple typique de l'établissement évolutif d'une interaction, d'une interrelation complexe, à partir de tout petits événements immédiats, sans aucun lien, les uns avec les autres. La sexualité va donc participer d'une sorte d'emballement évolutif, à partir des bulles les plus primitives. Celles qui vont faire le plus d'échanges, celles qui vont être les plus libertines, eh bien, vont pratiquer de plus en plus d'échanges, ça va emballer la sexualité. Puis ces bulles vont s'associer pour fabriquer de la pluricellularité et fabriquer du coup un organe entier qui va être un sexe. Cette pluricellularité va reconnaître un hermaphrodisme primitif. Les animaux vont être à la fois mâles et femelles. Hein. Au départ, d'ailleurs, il y aura probablement ni mâles ni femelles, mais juste une capacité de produire des cellules sexuelles. C'est par la suite que cette spécialisation dans des cellules qui vont bouger les spermatozoïdes va se faire. Cette spécialisation va conduire à des organismes sexués à sexe séparé, par atrophie de l'hermaphrodisme, donc par atrophie de l'autre sexe. Du coup, il va y avoir des mâles avec un sexe mouvant, capable de bouger, les femelles avec un sexe interne, avec des ovules produites, et donc ces quatre étapes majeures, les bulles libertines, la pluricellularité, l'hermaphrodisme primitif avec accouplement homosexuel, puis les organismes sexués, vont expliquer la totalité de ce qu'a été la sexualité des espèces.
Et donc, ta théorie des bulles libertines donne une explication qui n'est pas dépendante de la reproduction ?
Oui, il faut comprendre que cette procédure sexuelle s'est mise en place à travers une série de petites étapes non dirigées, répondant à des facteurs immédiats distincts, et en même temps que se spécialisent les cellules organiques qui vont autoriser la fabrication des gonades, chez les organismes qui sont devenus pluricellulaires, on va petit à petit assister à une séparation des lignées, et puis par atrophie des deux fonctions, hermaphrodite archaïque, eh bien on va avoir un individu sexué. Cette spécialisation est efficace, mais elle va développer le conflit d'intérêts entre les formes mâles et les formes femelles, car les mâles peuvent augmenter leur descendance en multipliant les accouplements, tandis que les femelles ne le peuvent pas, et elles vont se spécialiser pour arriver à la viviparité, et l'allaitement. On voit l'importance de la spécialisation dans l'évolution, qui est donc une longue histoire naturelle, avec comme la sexualité, qui est juste le résultat d'une très ancienne interaction d'échange de l'ADN. Cet échange très archaïque, qui s'est petit à petit développé, n'a absolument rien de n'a pas été construit pour améliorer la reproduction, mais simplement parce que cet échange était là, eh bien, il va servir aussi à la reproduction.
Le sexe, en tant que mécanisme non darwinien d'échange de gènes, a promu pour les êtres vivants l'intérêt évolutif d'avoir des relations et d'organiser des mutualismes. Mais à partir de cette première interaction primitive, cela va changer plein de choses dans l'évolution des espèces.
Oui, parce que la sexualité va accélérer l'évolution grâce à cet échange dynamique et va le faire entre deux êtres vivants qui le veulent, qui consentent à s'échanger de l'ADN. Évidemment, ça va être quelque chose d'important. L'innovation de la méiose réduisant la quantité d'ADN, de la syngamie et des gamètes, bref, l'innovation du sexe va en revanche rendre les relations obligatoires entre les êtres vivants. À partir d'une sensibilité cellulaire primitive, vont se construire des émotions, puis des sentiments amoureux, mais ça va obliger les êtres vivants à se séduire les uns les autres.
Le sexe, en obligeant à la séduction de l'autre, entraîne une réconciliation du conflit des sexes, alors ?
Ben oui, parce qu'il faut en passer par cette réconciliation, mais aussi par un ensemble de ruses. La séduction, c'est l'art de s'associer, de s'accommoder les uns des autres. Nous sommes dans une construction écologique des relations.
Tu dis souvent que c'est un retour de la liberté dans le processus matériel de l'évolution biologique, n'est-ce pas ?
Oui, de la liberté de choix dans ce déterminisme-là. Cette liberté de choix est devenue l'arme majeure de l'évolution biologique. Chaque être vivant, depuis la paramécie jusqu'à l'éléphant, va opérer un choix libre, un choix préférentiel, avec une séduction pour un partenaire précis.
Mais il existe des tricheurs ou du moins des séducteurs qui vont voir les choses différemment.
Oh combien ! Oui, parce que des anomalies sur le sexe, il y en a. D'abord, il y a les infidélités. On croyait par exemple les oiseaux monogames à 90%, alors qu'un tiers des nichés a un père différent de celui qui fait le nid. Et cependant, pendant que ces messieurs courent le guidou, les dames acceptent les avances de bien d'autres. Ainsi, chez le blaireau d'Europe, par exemple, eh bien, beaucoup de femelles ont des aventures. 48% des néonates ont un père extérieur au groupe, par exemple. C'est la même chose chez beaucoup d'autres espèces. La question qui reste, évidemment, c'est pourquoi tromper son partenaire ? Eh bien, l'avantage n'est pas très évident. On pense souvent que c'est parce que les femelles vont préférer un nouveau mâle. Or, ce n'est pas le cas. Chez les guillemots de Troie, par exemple, la plupart des femelles sont monogames, mais 10% vont divorcer.
Pourquoi ? Pour mieux réussir avec un autre ?
Non, puisque 85% de ceux qui divorcent vont échouer. On voit donc ici que la question n'est pas de la réussite. Les infidélités se produisent au hasard, comme chez le roselin familier par exemple, sans engendrer un plus grand succès reproducteur, ni une meilleure immunité des descendants, que ce soit chez les oies ou chez d'autres oiseaux. Et donc le résultat, c'est que la progéniture n'est ni meilleure, ni pire que si on n'avait pas du tout réussi cette variation.
The fire I breathe, love is a banquet on which we feed.
Vous écoutiez sur Radio Libertaire Because the Night par Patti Smith. Nous revoilà sur Radio Libertaire, une radio libre de penser.
Et nous sommes toujours à la recherche de cette incroyable particularité auquel consiste le sexe. On a vu les infidélités se produisent au hasard, mais on a également constaté que dans le sexe, beaucoup d'individus pouvaient exagérer. Avec le sexe, l'exagération est fréquente. Alors, on a par exemple des copulations multiples chez les lièvres, les boules de serpents, les relations hétérosexuelles chez les écureuils, les groupes à trois chez les crapauds ou chez les cervidés, par exemple. Et puis, on a aussi les mécanismes qui vont tellement aller loin que les individus peuvent changer directement de partenaire.
Mais comment des comportements non reproducteurs peuvent-ils être conservés dans l'évolution ?
Alors, c'est effectivement une véritable question, notamment pour tout ce qui est comportement homosexuel, fellation, tous les comportements qui sont autour de cette sexualité. L'homosexualité chez les putois, chez les canards, chez les lions, nous pose un véritable problème, puisque ça veut dire qu'il faut plaire et consentir à cet accouplement. Comment ces comportements peuvent-ils être maintenus ? Eh bien, précisément parce qu'ils servent bien à quelque chose quand même, et qu'ils ont un certain rôle tout à fait discret dans le processus évolutif.
Les mâles exhiberaient des signes pour séduire ?
En choisissant les mâles dont les caractères sont exubérants, les femelles sont censées sélectionner génétiquement des partenaires supérieurs, aptes à mieux poursuivre leur survie. Mais en fait, dans la réalité, le problème il est compliqué. Si les femelles choisissaient toujours le meilleur mâle, elles choisiraient toutes le même mâle. Il n'y aurait pas de variation génétique, elles seraient toutes autour des mêmes individus. D'autre part, au bout de quelques générations, tous les descendants sont de toute façon déjà les meilleurs, puisque les femelles ont déjà choisi les meilleurs. Donc au bout d'un certain nombre de générations, il n'y a plus aucun intérêt de faire du choix. Alors à moins évidemment que les femelles décident de se reproduire avec le premier venu, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas.
Et nous sommes à la recherche de l'incroyable, à la recherche de ce qui c'est le sexe. Ce processus organique est partagé par des millions d'espèces et qui reste une énigme biologique.
Alors Sionna, c'est tout à fait vrai, c'est une énigme, c'est un paradoxe du vivant. La biodiversité et l'unicité du vivant dans l'ADN, c'est ça qui va relever la biodiversité et l'ADN comme unicité dans le sexe. Tout vient d'une première cellule et tout va devenir des milliards d'organismes différents.
Mais pour arriver à la reproduction, les êtres vivants doivent d'abord se séduire. Et là encore, la biologie ne raconte pas grand-chose sur la séduction et l'excitation sexuelle. Alors d'où vient cette si étrange séduction ?
Eh oui, s'il y en a sans séduction, pas de possibilité d'excitation, donc pas de sexe possible. Et les individus vont donc s'attirer ou se refuser. La vraie question, c'est comment se fait la séduction ? Ce qui fait l'attirance, c'est ce qu'on appelle le beau. Alors qu'est-ce que c'est que le beau ? Eh bien, on va dire que ce sont ce qu'on appelait, nous, des traits hypertéliques. C'est-à-dire des traits un peu exagérés. Hypertéliques, oui. Exagérés. Ce sont des traits évidemment intéressants. On pense par exemple à la vieille expérience d'Anderson. En 82, sur un oiseau qu'on appelle l'unicolore. C'est un oiseau qui possède une grande queue. Il a raccourci la queue artificiellement de l'unicolore. Il a laissé des unicolores avec une queue normale. Et il a allongé artificiellement la queue. Alors, voyons. Un animal avec une queue raccourcie, c'est beaucoup moins bien reproduit. Il était moins séduisant. L'animal avec une queue normale, c'est bien reproduit, naturellement, d'une manière normale. Et puis l'animal avec une queue agrandie, c'est mieux reproduit encore. Bon, là, il y a quelque chose qui est une véritable anomalie. Car comment les femelles peuvent être affolées d'un caractère qui n'existe pas ? Cette queue agrandie n'existe pas dans la nature. Eh bien, si vous regardez les mannequins qui sont proposés dans les magazines, eh bien, vous voyez que les humains sont pareils.
Tout à fait.
Ils aiment des femmes qui n'existent pas.
Pareil pour les hommes, d'ailleurs. Effectivement, c'est étonnant. Mais alors, la recherche d'un partenaire ne peut pas reposer sur un simple critère. Comme si les femelles passaient leur temps à une sorte de pêche au meilleur gène. Et ce critère exagéré, pourquoi les femelles apprécieraient-elles un caractère trop exacerbé ?
Alors, c'est ça qui est très important de comprendre. C'est que la préférence sexuelle repose sur des caractères qui n'existent pas, des caractères évolutivement très exagérés. Ça permet d'attiser le désir. Et ça, évidemment, ça provient probablement de cette préférence pour des attributs exubérants, dits hypertéliques, qui seraient à chercher dans l'ontogénèse des espèces. Alors, j'ai développé cette hypothèse dans mon livre de la guerre des sexes, notamment, pour essayer de comprendre comment ces stimuli supranormaux, ces déclencheurs excessifs, pouvaient déclencher ça. Bon, chez l'oiseau unicolore, il y a donc la longueur de la queue, mais il y a la couleur des fesses du babouin, la gorge rouge du rouge-gorge, et puis bien sûr, le rouge à lèvres que les femmes se mettent. On voit que tous ces facteurs vont monter l'excitation et que c'est une tendance évolutive à l'exagération qui va fabriquer un biais sensoriel. L'excitation sexuelle va être déclenchée par des exubérances de couleurs, de formes. La séduction n'existe pas sur le réel. Elle stimule des biais sensoriels qui vont stimuler une exagération. C'est ça qui va accroître notamment l'excitation sexuelle.
Finalement, ce sont des processus automatiques, un peu comme des réflexes.
Ou que non, Siona, car le cerveau intervient. Il va détecter au contraire tous ces éléments importants en biologie. Certes, on ne sait pas pourquoi on tombe amoureux. Ça ne passe pas par les circuits de la conscience, mais ça engage bien l'intégralité du cerveau. Les analyses qui ont été menées par des IRM fonctionnels montrent que la totalité du cerveau, notamment bien sûr avec l'activation de l'amygdale, vont avoir un rôle très important avec un noyau important aussi qu'on appelle le noyau accumbens et qui intervient dans les circuits dits de la récompense. Tous ces éléments vont fonctionner à partir de phéromones, des phéromones qui vont déclencher des mécanismes de désir.
Mais qu'est-ce que le cerveau retient comme critère séduisant ? Qu'est-ce qu'on trouve beau chez notre partenaire, finalement ?
Alors, pour comprendre ça et pour répondre à ça, là encore, il faut remonter le cours du temps, chercher ce qui a commencé à plaire chez les tout premiers organismes qui nous sont apparentés. Et ces tout premiers organismes qui ont des critères attractifs, eh bien, ce sont très probablement les ascidies. Alors, les ascidies, c'est pas très beau, hein. Ce sont des animaux qui sont des sortes de grandes outres marines. Ça ressemble à des grosses, des sortes d'éponges. Elles avalent l'eau de mer, elles recrachent l'eau de mer. Mais ils sont très proches de nous d'un point de vue génétique. L'expulsion des gamètes chez ces ascidies va être précédée par l'émission de phéromones. C'est-à-dire que les ascidies vont dire, en gros, j'envoie un signal, je suis là. Une fois que le signal est fait, on envoie un second signal, viens, tu me plais. Et puis un troisième signal, est-ce qu'on en prend un verre, etc. Tout ça pour finir avec une telle excitation que l'éjaculation et l'ovulation vont se produire chez les ascidies. C'est une éjaculation dans l'eau de mer, puisqu'on a affaire à des animaux qui sont fixés à un endroit donné, et la fécondation sera à distance. Et puis par la suite, on va essayer de développer, améliorer, on va dire, ce dispositif sexuel.
Mais il existe aussi des activités sexuelles étonnantes. Par exemple, pourquoi les amoureux s'embrassent ?
Eh bien, de nombreuses espèces pratiquent en effet des échanges buccaux. L'énigme du baiser est quelque chose d'intéressant si on prend notamment l'exemple du baiser à la française. Bon, c'est très étonnant de chercher à séduire en mettant la salive dans la bouche de l'autre.
Hein. Effectivement.
C'est très bizarre. Pourtant, beaucoup d'animaux font ça. Pourquoi ? Eh bien, là encore, tous les animaux ne le font pas de la même manière. Par exemple, les chiens vont plutôt renifler des endroits plus intimes. Mais en fait, le but est toujours de renifler un endroit particulier et de sentir une odeur particulière. Cette énigme particulière va donner la grimace du tigre. Par exemple.
À quoi servent les stimulus olfactifs ?
Eh bien ici, on va titiller ce qu'on appelle l'organe voméronasal. L'organe voméronasal que tout le monde possède au-dessus du palais, et que les chevaux titillent en faisant leurs grimaces, les lions, les rhinocéros, etc., va directement mettre en jeu le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire le MHC. C'est ce qu'on appelle le phlémen, le comportement de phlémen, le fait, vous voyez, de renifler ce qu'on pourrait ressentir chez les autres. Il faut savoir que nous possédons un système immunitaire très petit, d'environ 200 gènes, ce qui est très peu, hein, comparé aux 25 000 gènes du génome humain. En retroussant la lèvre, le tigre, le cheval vont essayer de mesurer le MHC des femelles. Notre baiser sur la bouche fait exactement la même chose.
Oh, c'est romantique.
On se met la langue dans la bouche parce qu'on va toucher l'appareil voméronasal de l'autre et on regarde si le système immunitaire de l'autre nous plaît. Alors c'est très important parce que, en fait, on sait maintenant, par exemple chez le coq de jungle, que les accouplements entre partenaires, chez les femelles, les poules, qui d'habitude sont considérées comme faisant partie d'un harem avec un pacha qui possède le harem et qui prend toutes les décisions, eh bien les accouplements chez les poules ne se passe pas comme ça. Elles ne vont copuler qu'avec des individus non apparentés, compatibles génétiquement, mais non apparentés. Et pour cela, les poules de jungle vont sélectionner le mâle qui va avoir le MHC le plus différent. Donc même chez des espèces qu'on prenait pour exotiques, qu'on prenait pour des pachas avec des harems, des espèces qui sont très très rigides dans leur système sexuel, on s'aperçoit que le MHC a une importance capitale. On va retrouver d'ailleurs le fait que l'amour va se construire par la différence des MHC, aussi bien chez les lycaons que chez le bruant des prés, le lézard des souches, et bien sûr chez les humains. On va renifler ou s'embrasser, chercher un moyen d'accéder au système immunitaire de l'autre. Et si on a des systèmes immunitaires différents, eh bien, on va avoir envie l'un de l'autre. Ça va déclencher le désir. Alors maintenant, tout se comprend. Si on admet que l'émotion amoureuse va précéder l'envie de se reproduire, du coup, le sexe, il est fait pour s'exciter. Et on choisit un partenaire avec qui on peut convoler parce qu'on possède des MHC différents. Peu importe qu'il soit exotique, qu'il soit du même sexe ou qu'il soit différent de nous, dans un premier temps, il faut que son système immunitaire donne un ensemble différent. Et c'est ça qui va séduire. Voilà pourquoi toutes les espèces vont essayer tout un ensemble de choses jusqu'à ce qu'on décide après de copuler pour avoir des bébés. Chez toutes les espèces, on commence par se séduire et c'est seulement dans un second temps qu'on se dit tiens, si on faisait de la reproduction. Alors on voit combien c'était idiot d'associer le sexe et la reproduction en même temps.
Oui, on fait ça court en fait quelque part. Mais le sexe constitue donc un problème évolutif non résolu par la théorie darwinienne. Loin d'être un modèle pour la reproduction, on constate que finalement, le sexe reste donc d'abord une procédure d'échange biologique.
Oui, un échange biologique, mais dans une procédure volontaire ou quasiment volontaire. Ici, l'évolution dépend des libres choix de chacun. Chez les saumons, par exemple, comme chez les espèces à fécondation externe, la fécondation ne peut exister que entre adultes consentants.
C'est donc dire qu'on avait oublié en biologie l'importance des choix, des préférences, alors que notre histoire est le résultat de ces choix amoureux. N'hésitez pas, auditeurs, auditrices, à consulter les livres que Thierry a pu écrire. Il écrit ça avec passion, et La guerre des sexes, La biodiversité amoureuse, etc.
En fait, il faut comprendre que la sexualité est une écologie de l'évolution. L'écologie d'évolution qui permet de réunir deux êtres vivants séparés l'un de l'autre. Et le conflit sexuel doit être apaisé. Donc quand on parle du conflit sexuel, c'est de l'apaisement de ce conflit qui est important. Car la relation sexuelle va se nourrir biologiquement d'amour et des différences de chacun. On cherche l'autre parce qu'on est différent. Le sexe n'est donc pas une solution pour la reproduction. Et ce sont bien les relations qui structurent l'évolution. On va dire que l'évolution est d'abord une écologie évolutive. Et donc évidemment, il faut arrêter que, comme le font la plupart des réactionnaires ou des exigences de règles religieuses, ou sectaire, de tirer des énoncés normatifs de la nature. La seule norme de la nature, c'est bien au contraire la diversité des conduites sexuelles.
Rebelle et soumise, paupières baissées, quitte ta chemise, belle fiancée, l'amour est cerise, et le temps pressé, c'est parti remise, pour aller danser. La 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 la. Autant qu'il nous semble raisonnable et fou, nous irons ensemble au-delà de tout. Prête-moi ta bouche pour t'aimer un peu, ouvre-moi ta couche pour l'amour de Dieu. La 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 la. Laisse-moi sans crainte venir à genoux, goûter ton absinthe, boire ton vin doux, aux rires et plaintes, aux mots insensés, la folle complainte s'est vite élancée. La 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 la. Défions le monde et ses interdits, ton plaisir inonde ma bouche ravie. Vertu ou licence, par Dieu je m'en fous, je perds ma semence dans ton sexe roux. La 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 la. Aux pierres de lune, aux monts et merveilles, voilà que ma plume tombe de sommeil. Et comme une louve aux enfants frileux, la nuit nous recouvre de son manteau bleu. La 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 la. Rebelle et soumise, paupières lacées, remets ta chemise, belle fiancée, l'amour est cerise, et le temps passé, c'est parti remise, pour aller danser. La 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 la.
C'était la superbe chanson « L'amour et cerise » de Jean Ferrat.
Et donc, de quoi le sexe est-il le nom ? Le sexe est bien le nom d'une incroyable aventure évolutive, une aventure qui concilie la liberté des choix de chacun avec le déterminisme génétique. Une aventure qui engage la divergence des espèces et qui exige leur relation, c'est-à-dire une aventure d'écologie évolutive. L'évolution est l'histoire de ces multiples interactions dont le sexe nous livre un exemple concret et ô combien agréable. Les bactéries, isolées au milieu des conditions sévères d'une planète débutante, n'ont survécu que grâce à leur petite taille, un génome le plus souvent circulaire et une paroi de peptidoglycane, bien que leurs échanges se soient limités à quelques plasmides ou contacts partiels. Les eucaryotes, c'est-à-dire toutes les autres espèces avec une cellule à noyau, ont montré à l'opposé des caractéristiques propres, directement liées à l'émergence de la sexualité, probablement parce que les premiers eucaryotes ont eu l'obligation d'entretenir des relations de promiscuité à un stade très avancé de leur constitution. C'est cela la théorie des bulles libertines. En fait, il n'y a pas de héros seul. L'évolution biologique reste la condition fondamentale du fonctionnement de la diversité des espèces et des êtres vivants. Et il n'est pas possible d'ignorer l'importance des relations que les organismes esquissent entre eux. Le vrai paradoxe, c'est que le sexe apparaît comme un processus évolutif non darwinien. En quelque sorte, avec le sexe, chaque descendant présente un nouvel assortiment de gènes qui fait de chacun un individu, en quelque sorte, hétérogénomique au sein de sa population d'origine. En rompant avec la propagation clonale, la progéniture sexuée illustre l'importance du rôle évolutif des interrelations en général. Si à ça on ajoute que chacun des individus préfère d'abord l'individu qui est différent de lui et non pas le plus beau ou le meilleur à la Darwin, mais bien un individu différent pour son système immunitaire au demeurant, eh bien on s'aperçoit que les animaux sont donc bien davantage libertaires en amour que ce qu'on aurait pu penser. Et le sexe pour cela ne constitue pas la moindre des extravagances.
Et oui, nous quittons cette planète passionnante sexe pour auditrices, auditeurs intrépides. Vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission Science Libre @gmx, Science Libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur « En amour comme en émeute » par Cartouche.